Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. La terreur, vérité et légende de Jean-Clément Martin est un essai d'histoire consacré à la Révolution française. Centré sur l'épisode de la terreur en 1793 et 1794, l'ouvrage ne se contente pas de rappeler les faits les plus connus, il cherche surtout à distinguer ce qui relève de la réalité historique de ce qui a été reconstruit ensuite par la mémoire politique, les polémiques et les récits simplificateurs. Jean-Clément Martin, historien majeur de la Révolution française, adopte une démarche synthétique et critique, accessible à un large public tout en restant fondée sur les travaux savants récents. Le livre interroge la place de la violence, le rôle des acteurs révolutionnaires, la fabrication du terme même de terreur et la manière dont cet épisode a été transformé en symbole durable. Il propose ainsi une lecture nuancée d'un moment décisif de l'histoire française. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la terreur comme construction historique. Plus que comme système politique unifié, l'une des thèses centrales du livre est que la terreur ne doit pas être comprise comme un bloc cohérent, pensé et revendiqué dès l'origine comme un régime organisé. Jean-Clément Martin insiste au contraire sur la difficulté à définir précisément cet objet, parce qu'il a été reconstruit après coup par des acteurs politiques hostiles à la révolution radicale. Le mot lui-même prend une importance majeure dans cette démonstration, il sert à fixer une lecture rétrospective qui simplifie une séquence beaucoup plus instable. Cette approche oblige à distinguer les actes de gouvernement, les mesures de guerre, les violences judiciaires et les affrontements internes à la Convention. Le livre montre ainsi que le concept de terreur a souvent été utilisé pour donner une cohérence artificielle à une période marquée par le désordre, l'urgence et les luttes de pouvoir. Cette remise en perspective est essentielle, car elle déplace la question de la condamnation morale vers l'analyse historique des circonstances et des usages politiques du passé. Deuxièmement, le poids de la guerre civile, des frontières et de la crise de l'État révolutionnaire, le livre replace la terreur dans un contexte de rupture politique et de pression militaire extrême. Après la chute de la monarchie, la Convention doit faire face à la guerre extérieure, aux soulèvements intérieurs, aux résistances provinciales et à la difficulté de construire un État légitime. Jean-Clément Martin montre que la violence ne peut pas être isolée de ses contraintes, car elle naît aussi de l'absence de cadre stabilisé et de la peur de l'effondrement. La terreur apparaît alors moins comme une machine abstraite que comme une réponse improvisée, parfois contradictoire, à une situation de crise. Cette lecture insiste sur la continuité avec d'autres formes de violence d'État déjà présentes dans l'histoire, tout en soulignant la nouveauté politique apportée par la Révolution. Le point important n'est pas de minimiser les faits, mais de comprendre pourquoi les décisions ont été prises et dans quel rapport de force elles se sont imposées. Le livre fait donc de la terreur un épisode de gouvernement en situation d'urgence, plus qu'une doctrine stable. Troisièmement, Robespierre, les thermidoriens et la fabrication d'un responsable unique. Un autre apport important de l'ouvrage est la décentration du récit centré sur Robespierre. Jean-Clément Martin explique que l'attribution de la terreur à un seul homme est une simplification tardive, forgée après Thermidor, pour légitimer la rupture politique. Les adversaires de Robespierre ont joué un rôle décisif dans cette mise en récit, en transformant un ensemble d'interactions complexes en faute personnelle. Le livre rappelle aussi que plusieurs figures ensuite dénoncées comme responsables avaient elles-mêmes participé à la séquence révolutionnaire précédente, ce qui complique fortement l'idée d'une opposition nette entre bourreaux et victimes. Cette analyse permet de comprendre comment une mémoire politique se construit par désignation d'un coupable principal. Elle évite aussi de réduire la dynamique révolutionnaire à la psychologie d'un seul acteur, ce qui serait contraire à l'enquête historique. Le résultat est une lecture plus relationnelle et plus structurelle, où les responsabilités sont partagées, disputées et souvent instrumentalisées. Le livre montre ainsi que l'histoire de la terreur est aussi celle de ses accusateurs. Quatrièmement, une méthode de synthèse rigoureuse pour distinguer faits, interprétations et légendes, le livre se distingue par sa méthode. Jean-Clément Martin propose une synthèse courte, organisée en nombreux chapitres brefs, qui permet d'aborder rapidement plusieurs questions sans perdre la précision de l'analyse. Cette forme sert un objectif clair, faire le tri entre les données établies par l'historiographie et les récits amplifiés par la mémoire collective. L'auteur ne cherche pas à produire un récit sensationnaliste, mais à clarifier un débat longtemps encombré par des clichés. Sa démarche repose sur une lecture critique des sources et sur la prise en compte des recherches historiques récentes. Cela rend l'ouvrage particulièrement utile pour les lecteurs qui veulent une vue d'ensemble fiable sans devoir entrer immédiatement dans des travaux universitaires plus techniques. La synthèse n'est pas ici une simplification appauvrissante, mais un outil de clarification. Le livre met aussi en valeur la complexité du langage historique, ce que l'on appelle terreur. Violence politique ou répression révolutionnaire ne recouvre pas exactement les mêmes réalités. Cette précision conceptuelle constitue l'une des forces du livre. En dernier lieu, la postérité de la terreur et son usage dans la culture politique française, l'ouvrage ne s'arrête pas à 1794. Il montre comment la terreur est devenue un mot durable de la culture politique française, utilisé bien au-delà de la Révolution pour désigner d'autres formes de violence politique ou idéologique. Cette postérité explique en partie la puissance du mythe. La terreur sert de référence négative, de repoussoir moral et de catégorie d'interprétation pour des périodes très différentes. Jean-Clément Martin souligne ainsi que la mémoire de la Révolution a été profondément marquée par la réaction thermidorienne et par les récits postérieurs qui ont fixé une image dramatique et souvent univoque de l'épisode. Le livre invite donc à réfléchir non seulement à ce qui s'est passé, mais aussi à la manière dont les sociétés transforment un moment historique en symbole politique. Cette dimension mémorielle donne à l'essai une portée plus large que l'histoire événementielle. Elle intéressera particulièrement les lecteurs sensibles à l'histoire des représentations, à la mémoire nationale et à la fabrication des grands récits politiques. En conclusion, ce livre s'adresse d'abord à ceux qui veulent comprendre la Révolution française sans se contenter des versions toutes faites, mais aussi aux étudiants, enseignants et lecteurs curieux d'histoire politique. Il sera particulièrement utile à quiconque souhaite réfléchir à la violence d'État, aux usages de la mémoire et à la construction des mythes historiques. Son intérêt principal tient à sa capacité à combiner clarté d'exposition et exigence critique, là où beaucoup d'ouvrages sur la terreur se concentrent sur la condamnation morale ou sur la figure de Robespierre. Jean-Clément Martin propose un déplacement salutaire, il interroge les mécanismes de désignation, les contextes de crise et la fabrication du récit lui-même. Cette posture donne au livre une valeur double, documentaire et interprétative. Il permet de mieux comprendre un épisode fondamental de la Révolution française, mais aussi d'observer comment une société transforme un passé conflictuel en symbole durable. Dans la catégorie des essais historiques sur la Révolution, il se distingue donc par sa sobriété, sa précision et son effort constant de démystification. Si vous souhaitez soutenir Jean-Clément Martin, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.